France Culture.
France Culture, grand reportage, Aurélie Kiefer.
Il y a une forme de panique que vous sentez monter parce que personne ne sait ce qui va se passer avec Donald Trump. Les gens sont effrayés par ce qu'il a annoncé.
Pour moi, nous devons d'abord nous occuper de la frontière. Et ensuite, nous irons à l'intérieur du pays pour arrêter les clandestins. Il faut revenir aux bonnes habitudes du passé.
J'ai peur que l'on nuise vraiment à la compétitivité de l'Amérique et aux universités américaines en laissant entendre aux étudiants les plus brillants qu'ils ne sont pas les bienvenus ici.
Il s'est engagé à lancer, dès le premier jour de son mandat, la plus grande opération d'expulsion de migrants illégaux de l'histoire des États-Unis. Tout au long de la campagne présidentielle américaine, Donald Trump a vilipendé les migrants clandestins qui, selon lui, empoisonnent le sang des États-Unis. Il s'est emparé de cas très médiatisés d'attaques violentes contre des femmes et des enfants pour assimiler ces étrangers à des violeurs et des assassins. Il a même affirmé qu'à Springfield, dans l'Ohio, les Haïtiens mangeaient les animaux de compagnie des habitants, présentant comme vérité établie une rumeur totalement fausse. Les outrances et les mensonges dont il est coutumier n'ont pas empêché Donald Trump de remporter l'élection. Il s'apprête donc à relancer une politique migratoire offensive. Mais jusqu'à quel point ? Mettra-t-il en œuvre ses annonces fracassantes pour satisfaire ses soutiens de l'extrême droite identitaire ? Ou écoutera-t-il davantage les entrepreneurs de la tech, comme Elon Musk, qui défendent l'immigration choisie et les visas permettant de faire venir de la main-d'œuvre qualifiée ? Donald Trump est souvent imprévisible et capable de volte-face au gré des rapports de force au sein de son camp. Pour les immigrés installés aux États-Unis, quel que soit leur statut, l'avenir est donc particulièrement incertain. Immigration, la méthode Trump, c'est un reportage signé Olivier Poujade. Bonjour Olivier.
Bonjour Aurélie.
Vous rentrez des États-Unis, où vous avez voulu savoir comment étaient perçues les promesses de Donald Trump en matière d'immigration.
Oui, c'est ça, je rentre de New York, il y a peu de temps, la ville symbole de l'histoire de l'immigration aux États-Unis. Auparavant, je m'étais rendu en Arizona, près de la frontière mexicaine. C'est un reportage que j'ai tourné en deux temps. Et en fait, il y a trois mots qui me viennent à l'esprit pour résumer un peu ce que j'ai pu observer. Anxiété, confusion et division. L'anxiété parce qu'évidemment, la brutalité des mots de Trump laisse entendre à tous les étrangers qui sont aux États-Unis qu'ils doivent se préparer au pire, en quelque sorte. Confusion, justement parce que Donald Trump a donné peu de détails sur sa politique migratoire, donc tous les étrangers se sentent un peu visés. Et puis le troisième mot... Vous en avez un peu parlé, c'est division politique, que ce soit dans le camp démocrate à New York, il y a beaucoup de tensions entre le maire de la ville et la gouverneure de l'État, qui sont tous les deux démocrates, donc, mais il y a des divisions également dans le propre camp de Donald Trump, avec Elon Musk d'un côté, plutôt favorable à une politique de tri migratoire, et de l'autre, la ligne défendue par Stephen Miller, Steve Bannon ou Tom Homan, des suprémacistes blancs pur jus qui mettent déjà, en quelque sorte, Donald Trump sous pression.
Olivier Richomme est en direct du studio Radio France de Lyon. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes professeur de civilisation américaine à l'Université Lyon de Lumière, membre du laboratoire Triangle, et vous avez vous-même été expatrié aux États-Unis. Je vous ferai donc réagir au reportage d'Olivier qu'on va tout de suite écouter. Il débute à New York où souffle ces temps-ci un vent glacial. Olivier est en compagnie de Hattie Hill, bénévole depuis 10 ans dans l'aide aux migrants.
Là, on est à Brooklyn Bridge Park, tout début, et on va voir bientôt la Statue de la Liberté et Ellis Island en face.
Alors, Ellis Island, on en parle.
Voilà.
Quel symbole ça a pour vous ?
Pour moi, premièrement, mon arrière-grand-père est arrivé à Ellis Island de l'Allemagne en 1900, en fait, et quand j'étais petite... Il nous parlait de ça. Il était très jeune, il avait peut-être 4-5 ans quand il est arrivé, mais il a un souvenir d'arriver sur le bateau à Lille. Ils avaient marché de la frontière entre l'Allemagne et la Pologne jusqu'à Amsterdam, à pied, pour prendre un bateau pour venir aux États-Unis. Donc c'est là où commence mon histoire américaine, à moi.
La vague d'immigration européenne de la fin du 19e siècle, c'est ça?
Voilà, exact.
Pour revenir sur Ellis Island, peut-être on va se mettre en dehors du vent. C'est encore un symbole aujourd'hui, Ellis Island, pour l'Amérique, pour les Américains.
Oui, tout à fait, tout à fait. Il y en a tellement de gens qui sont passés par là, ou leurs familles sont passées par là, au pied de la Statue de la Liberté. Et donc, de voir comment on traite les immigrants d'aujourd'hui, de voir le contraste, ça, c'est triste. New York, l'immigration, c'est tout. Hein. Mes voisins sont du Bangladesh, du Mexique, d'Israël. Et de penser que ma communauté, la ville de New York, pourrait être une ville changée par la haine et la peur, c'est triste.
Oula, ouais, le vent. Il y a du vent. Ouah ! On va se mettre encore plus à l'abri pour ouais. Continuer la conversation.
Ouais.
Ouais, là, ça va mieux. Vous parlez de la première administration Trump, le premier mandat de Trump entre 2017 et 2021. En tant que bénévole dans les organisations d'aide aux migrants, quel est le souvenir que vous gardez de ces quatre années-là?
Bon, je pense que déjà, petit 1, c'était le stress. Le stress de travailler avec des jeunes immigrants, souvent les gens sans papier ou les gens en situation vulnérable, qui me parlaient de comment ils avaient peur d'être chassés, d'être renvoyés chez eux. Le problème, maintenant que le prochain mandat va commencer, c'est que ceux qui travaillent dans ce domaine, depuis bien longtemps, on est fatigués.
Et de fatigués de quoi ?
Pas fatigué de faire le travail, parce que si tu travailles dans le domaine bénévole avec les immigrants, c'est parce que tu l'aimes. C'est pas un truc qui va te faire gagner des millions de dollars, mais c'est juste de faire face aux agressions tous les jours. Hein, ça rend fatigué. Hein, ouais.
Ces agressions-là vont reprendre.
Ah ouais, sans doute, sans doute. Ouais.
Il y a déjà des signaux.
Avant, on parlait des paroles de Trump et son entourage sur ce qu'ils vont faire le 20, l'inauguration du 20 janvier. Et donc, les immigrants qui entendent ça, ils commencent à paniquer, ils commencent à se demander qu'est-ce que je vais devenir, qu'est-ce que je peux faire. Par exemple, je travaille beaucoup avec des immigrants qui cherchent du travail ici aux États-Unis. Et même ceux qui sont là légalement, qui ont un visa, qui ont un statut qui leur donne un permis de travail, ils se demandent, mais pourquoi est-ce que je vais chercher un meilleur travail maintenant? Parce que si je suis engagée, d'ici 2 mois, est-ce que je vais pouvoir faire ce travail? Aussi, c'est les employeurs qui se demandent, mais pourquoi est-ce que je vais donner un travail à ce monsieur ou cette dame si d'ici 1 mois, cette personne va être renvoyée chez eux?
Donc il y a une certaine forme de résignation déjà.
Tout à fait.
Là, on vient d'arriver à Brooklyn, pas loin du jardin botanique, en fait. Et on est donc devant un immense bâtiment, probablement des milliers de logements à l'intérieur, avec en face de l'immeuble un terrain de basket, comme on les imagine à New York. Cet immense bâtiment, il est assez impressionnant, il est assez imposant, avec des briques marron, aussi très typique de ce que l'on peut trouver dans ces quartiers-là de New York. Juste devant un véhicule de la NYPD, de la police de New York. Je ne sais pas très bien ce qu'il fait là. Et c'est Mamadou Diallo qui vient me chercher pour que l'on discute un peu de sa situation. Mamadou qui arrive de Guinée, il est originaire de Guinée. Il est arrivé déjà il y a 2 ans ici aux États-Unis. Mais il est entré illégalement et il va nous raconter son histoire.
Bonjour.
Vous êtes Mamadou ?
Oui.
Bonjour Mamadou.
Bonjour, vous allez bien ?
Très bien. Vous m'invitez chez vous ?
Oui, bon. Effectivement.
C'est quoi le camion de police qu'il y a devant là ?
Ah, parce qu'ici, il y a trop de bandits ici. gangs, ils ont des groupes de bandits ici, je ne sais pas. On craint ici beaucoup. Le mois passé, là, ils ont tué ici quelqu'un ici, un Africain. On habite juste à la 9e étage.
Au 9e. Bonjour. Ça va bien, merci. Merci de m'accueillir. Donc, vous me racontiez, Mamadou, que vous êtes arrivé en 2022, c'est ça ?
Oui.
Quel souvenir vous avez de cette traversée très longue en passant par le Brésil ?
J'ai beaucoup de souvenirs. Dans la forêt, j'ai fait là-bas 3 jours. On buvait de l'eau de rivière comme ça. On a beaucoup souffert là-bas. Il y a beaucoup de souvenirs, beaucoup même. Très douloureux même.
Douloureux parce que vous avez été aussi agressé, peut-être, le long du voyage, par des gens ?
Yeah, of course, yeah. Il y a même ici, dans la forêt, il y a d'autres bandits qui sont là-bas. Ils nous ont menacés, ils ont dit que si on veut passer ici, on doit payer.
Quelle est votre situation maintenant ? Est-ce que vous avez des papiers ?
Non, je n'ai pas de papiers, mais j'ai le walking, du travail, le social.
Donc, vous n'avez pas de papiers ? Mais un permis de travail quand même.
Oui, un permis de travail, oui, effectivement.
C'est comme une green card ?
Yeah, ça ressemble à une green card ici. Je peux vous montrer ?
Ah oui, je veux bien, oui. Donc c'est une carte officielle du gouvernement américain. Oui. United States of America Employment Authorization. Ok. Et ça, vous l'avez obtenu quand ?
C'est décembre 2023 que j'ai reçu ça.
Donc un an après être arrivé, oui. Quoi. Donc là, c'est un soulagement déjà quand on a ce petit bout de papier, non ?
Yeah, un peu même. Ça m'a donné de force de rester ici encore.
Et vous travaillez beaucoup ?
Oui, quand même. Je travaille avec Uber. Uber, yeah. Uber Eats.
C'est la société Uber qui vous emploie ?
Oui. Et avec la livraison, j'ai fait la livraison depuis que je suis venu ici.
Comment on peut être autorisé à travailler ? Et ne pas avoir de papier, c'est bizarre ça quand même.
Oui, yeah, c'est bizarre même. Parce que l'Amérique ici, donner du papier, c'est question de sens, vous voyez.
Là, pour avoir des papiers, qu'est-ce qu'il vous faut en fait ? Vous êtes dans un processus pour obtenir les papiers ?
Oui, mais mon avocat est suspendu. Il faut que je cherche un nouveau avocat. J'ai même payé cet avocat-là, 1 500 $.
Pour finalement qu'il soit suspendu ?
Oui. C'est difficile maintenant à récupérer cet argent-là. Ils ont dit que ce n'est pas possible. Il faut que je recommence encore à zéro.
Comment vous imaginez l'arrivée de Trump ?
Ça va être une catastrophe. On a peur de ça.
Mais vous avez peur de quoi exactement ?
D'être déporté. J'ai peur de ça. Parce que même, j'ai même rêvé ça. J'ai rêvé de Trump. Vous voyez, c'est un violent. Parce qu'avec ces déclarations-là, chaque fois, l'attaque, l'immigration, et tout ça-là, ça rend bizarre même.
In Springfield, they're eating the dogs. They're eating the cats. They're eating the pets of the people that live there. They're eating the dogs. They're eating the cats. They're eating the pets of the people that live there.
People of Springfield, please don't eat my cats. Why would you do that? Eat something else. People of Springfield, please don't eat my cats.
Mon nom est Fiol, taxi. Depuis 40 ans, je suis arrivé aux États-Unis depuis 44 ans.
Et vous venez de
d'Haïti. Je suis américain en papier.
Oui.
En papier. Mais mon sang, ça vous sent haïtien. Pour vous dire, mon frère, j'aime Haïti.
Et vous l'avez entendu, Trump parler d'Haïti ?
Oui, beaucoup, oui. Mais c'est de la politique, hein. Oui, c'est avec ça, mais. La politique qui est avec ça. Sans l'immigrant, l'économie américaine va baisser.
Alors pourquoi Trump dit qu'il veut tous les renvoyer ?
Il a dit ça, mais il ne pourrait pas faire ça. Il a dit ça, mais il ne pourrait pas faire ça. Il ne peut pas faire ça.
Pourquoi ?
Avant tout, c'est l'économie, mon frère. L'économie, pour faire du bénéfice, pour rentrer de l'argent, il faut exporter l'argent. il y a beaucoup d'immigrants qui travaillent pour moins d'argent, pour moins d'argent. Il y a beaucoup.
Et ils font quoi, ces gens?
Ils font quoi? Le Mexicain font la construction. L'Africain, messenger.
Les livraisons.
Les livraisons, africains. Haïtiens, chauffeurs de taxi, chauffeurs de delivery aussi. Les Arabes font du taxi aussi.
Les Américains font quoi?
Rien, dépenses. Ce sont des boss, les Américains sont des boss.
Mais alors pourquoi ils veulent les renvoyer?
Ils ne peuvent pas faire ça. Ils ne peuvent pas faire ça. C'est trop d'immigrants ici. Manhattan est composé d'immigrants, 100%.
Merci Fignol. Merci beaucoup. Merci beaucoup, je descends là. Merci. Hello.
Hello there. Welcome to the little shop of kindness.
Okay, thank you. Thank you very much. That's the shop of kindness here.
100%, yes.
Okay, thank you very much.
Thank you. Have a great day.
Yes, you too. Bye. Donc je laisse Fignol, le chauffeur de taxi haïtien, très sympathique, pour rentrer à la petite boutique de la gentillesse. La petite boutique de la gentillesse est une association d'aide aux migrants qui vraiment veut aider les derniers migrants arrivés à New York. On va s'entretenir avec la directrice de cette boutique-là. Nice to meet you, nice. I'm Olivier.
Hi, Ilse Thielman, I'm the director of Team TLC.
Comment est-ce que vous expliquez qu'il y a eu une chute brutalement de la fréquentation de votre boutique et de l'arrivée de migrants à New York?
Bon,
l'ordre de fermer les frontières se rapproche quand Donald Trump sera aux affaires. C'est assez clair que ce sera le cas. Le nombre d'arrivées est en baisse depuis un certain temps. De plus en plus de gens se cachent dans le métro ou les égouts. Certains quittent la ville en cherchant d'autres endroits pour vivre. Je sais qu'il y a des gens qui essaient d'entrer au Canada, donc il y a une forme de panique que vous sentez monter parce que personne ne sait ce qui va se passer avec Donald Trump. Les gens sont effrayés par ce qu'il a annoncé.
Donald Trump doit quand même collaborer avec les autorités locales, ce qui veut dire collaborer avec le maire, par exemple, Eric Adams, alors que la loi empêche les autorités, la police locale de travailler en lien avec les services d'immigration. Il n'y a que Eric Adams qui peut le permettre. Qu'est-ce que vous pensez qu'il va arriver ?
Nous, les personnes qui faisons ce travail d'aide, nous demandons aux maires et aux autorités de maintenir le statut de ville sanctuaire de New York. Nous réclamons des garanties de leur part pour en être certains.
En fait, j'étais sur un Zoom la semaine dernière avec Mayor Adams et un nombre de personnes dans cette organisation.
J'étais en vidéoconférence la semaine dernière avec le maire Adams et des gens d'autres organisations. Et c'est assez clair que M. le maire ne semble pas vouloir collaborer avec les autorités fédérales pour les aider à interpeller et déporter les gens. Mais il dit aussi qu'il ne peut pas s'opposer aux services de l'immigration et les empêcher de faire ce qu'ils ont à faire. Donc tout est encore très confus sur l'engagement de notre maire à défendre concrètement le statut de ville sanctuaire de New York, malheureusement.
Thank you very much.
You're welcome. Thank you.
Stand clear of the closing doors, please.
Eric Adams affirmait l'an dernier que l'afflux de migrants finirait par détruire la ville. Le maire démocrate de New York se dit aujourd'hui favorable à travailler avec l'administration de Donald Trump. Un point de vue qui s'oppose radicalement à celui de Katie Hochul, la gouverneure démocrate de l'État, déterminée, elle, à défendre le sanctuaire new-yorkais. Retour de Donald Trump, division au sein du Parti démocrate, les élus républicains minoritaires à New York espèrent aujourd'hui profiter du contexte pour imposer leur projet de loi sur l'immigration.
Mon nom est Jared Gandolfo, conseiller municipal de New York, représentant du 17e district qui se trouve dans le comté de Suffolk à Long Island, en banlieue de New York, et j'attends avec impatience cette nouvelle année.
Est-ce que vous pensez que ce sera vraiment une très bonne année, puisqu'avec l'arrivée de Donald Trump au pouvoir à nouveau, est-ce que ça peut vous aider ?
Je crois qu'aujourd'hui, la réélection de Donald Trump démontre que la criminalité et l'économie demeurent de grandes préoccupations pour beaucoup d'Américains et beaucoup de New-Yorkais.
Vous avez parlé de crime et d'économie, mais vous ne m'avez pas parlé d'immigration.
Tout est lié. L'immigration, bien sûr. Même si avant que l'immigration ne devienne un gros problème ici, le crime et l'économie étaient les deux domaines les plus coûteux pour l'État de New York. Et même avec la crise migratoire, il reste en tête des problèmes pour les gens à New York.
Vous associez évidemment et presque systématiquement l'immigration avec la criminalité.
Bien sûr que toutes les personnes qui ont franchi la frontière ne sont pas de violents criminels, mais un bon nombre d'entre eux ont prouvé qu'ils l'étaient. Sur l'arrivée de ces 200 000 migrants depuis le début de la crise, en 2022, d'après ICE, l'agence de l'immigration, environ 58 000 d'entre eux ont commis des crimes ou font l'objet de poursuites judiciaires. Et parmi eux, un millier sont membres d'un gang, ici, à New York.
Comment est-ce que Donald Trump peut vous aider, justement, puisqu'on sait que c'est une réponse locale dont ont besoin les politiques migratoires et qu'elles sont opérées de manière locale? Comment est-ce que la Maison-Blanche peut vous aider?
Je pense que dès le premier jour, nous allons voir le président Trump signer un grand nombre de décrets. Et on espère que certains seront liés à la gestion des frontières. Donc si le président Trump et les républicains du Congrès sécurisent les frontières, ça ralentira le flux d'arrivées de migrants à l'intérieur du pays et dans l'État de New York. Donc ça devrait nous aider.
Concrètement, qu'est-ce que vous attendez des premières mesures prises à New York et pour quelles mesures vous allez vous mobiliser ?
La première mesure dont on a besoin, c'est l'annulation par la gouverneure Hochul du décret 170 de 2017 qui fait de New York un État sanctuaire en interdisant aux forces de police de prévenir l'Agence fédérale de l'immigration quand elles arrêtent un étranger. Si ce décret tombe, les agents de l'immigration pourront se saisir des cas qui concernent les personnes entrées illégalement. Elles pourront prendre des mesures pour expulser ces personnes si elles les considèrent dangereuses pour le pays. Mais je pense que ces gens qui entrent illégalement et commettent un crime doivent être les cibles prioritaires à déporter et renvoyer dans leur pays d'origine.
Qu'est-ce que vous appelez criminel ? Est-ce que, par exemple, si vous êtes sans papier, vous êtes un criminel ?
Au final, oui, c'est la première loi que vous enfreignez quand vous passez la frontière sans utiliser un point d'entrée officiel.
I had a last question. Do you know Joe Arpaio ?
Son nom me dit quelque chose, mais pas beaucoup plus.
C'était le shérif de Maricopa, Joe Arpaio. Vous le connaissez ?
People still talk about me, that I'm racist. I can go on and on, which is okay. I don't care. Okay.
Le shérif Joe Arpaio est encore aujourd'hui considéré comme le shérif le plus dur des États-Unis. Il a régné pendant 30 ans sur le comté de Maricopa, en Arizona, avant d'être condamné en 2013 pour délit de faciès et détention arbitraire par la Cour fédérale.
Les agences fédérales de l'immigration et de la sécurité intérieure ont le pouvoir d'assermenter la police. C'est ce qu'ils ont fait avec moi, même si j'aurais pu le faire de toute façon parce que nous avions nos propres lois au niveau de l'État. Bon, la solution à ce problème est très simple. Tout ce que le président a à faire, c'est de dire à ses agences « Je veux que vous fassiez prêter serment à tous les flics de ce pays pour qu'ils aient le pouvoir d'arrêter les immigrés illégaux. » Je l'ai fait, je m'en suis sorti, mais ça m'a causé beaucoup de problèmes avec cette histoire de délit de faciès. Le juge était plein de préjugés, horrible. Il m'a reproché de faire du profilage racial. Je n'ai jamais fait ça. Il m'a dit, vous ne pouvez pas utiliser la race pour arrêter quelqu'un, mais vous pouvez travailler avec l'agence de l'immigration. Donc ce que le président doit dire, c'est, OK les gars, vous m'avez soutenu pour être président. Il doit convaincre le chef de la police, les maires et le conseil municipal. C'est là qu'il doit se montrer ferme et agir concrètement. C'est très facile de déporter. Je sais comment faire ça en 2 minutes. Vous missionnez tous les flics pour que chaque policier de la ville ait le pouvoir d'enfermer un clandestin ou de le remettre à l'immigration. Les flics aiment Trump. C'est très simple. Le gouvernement fédéral ne peut vraiment pas faire ça tout seul. Et les autorités locales ont besoin d'aide. Ce qui veut dire qu'elles doivent demander l'aide de leur patron. Pour moi, nous devons d'abord nous occuper de la frontière. Et ensuite, nous irons à l'intérieur du pays pour arrêter les clandestins. À New York ou ailleurs. Il faut revenir aux bonnes habitudes du passé.
Le zèle de Joe Arpaio, Reina en garde un souvenir traumatisant. Elle est aujourd'hui responsable d'une association d'aide aux migrants.
Il faut se souvenir qu'en Arizona, nous avons eu un shérif qui s'en prenait non seulement aux sans-papiers, mais aussi à tous les latinos. Il les a arrêtés avec le projet de les expulser. Il les mettait dans des camps. Nous savons que ça peut arriver, que malheureusement, c'est arrivé ici, dans notre pays, aux États-Unis. Ils ont fait des choses inhumaines, comme par exemple ces camps de détention où ils ont enfermé des Japonais, des Américains d'origine japonaise. Ils ont aussi déporté plus d'un million de Latinos, dont certains étaient en règle. On sait que ce n'est pas possible d'expulser 11 millions de personnes du jour au lendemain, et on sait qu'ils ont le pouvoir de déclencher ces mesures d'expulsion.
Vous parlez de Joe Arpaio ?
Oui. Ça m'a bouleversée de voir ces agents placés devant les écoles pour repérer les parents qui venaient déposer leurs enfants. Je me souviens qu'à l'époque, on recevait déjà des messages sur nos téléphones portables pour nous dire que des rafles étaient en cours dans telle ou telle rue. J'ai vu beaucoup de gens sous le choc. Même ma mère avait tellement peur qu'elle ne me laissait pas aller au cinéma. On devait planifier nos sorties pour aller acheter à manger, pour éviter les heures où les policiers étaient au coin de la rue. C'est horrible de vivre dans ce climat.
Est-ce que vous avez le sentiment de replonger dans ce passé ?
Je ne dirais pas qu'il revient, non, mais il y a des similitudes. J'ai l'impression que les gens, aujourd'hui, sont très déconnectés de la réalité, qu'ils croient que tout ça n'était qu'un discours de campagne. Beaucoup de gens souffrent en ce moment. Et la facilité pour eux a été de blâmer les immigrés. Ils se sont laissés guider par la peur et vont créer encore plus de souffrances.
Comment est-ce que vous expliquez qu'une majorité de latinos ait contribué à élire Donald Trump ?
Je crois que la seule explication... c'est qu'ils ont oublié leurs racines. Ils ont oublié la souffrance de leurs propres grands-parents. Et maintenant, l'économie est difficile. Ils souffrent. Donc c'est plus facile de pointer du doigt, de blâmer les personnes vulnérables. Plus facile que d'essayer de comprendre comment les choses fonctionnent réellement. Et ça, c'est très triste. C'est très dur de voir des gens qui parlent votre langue et qui ne veulent pas que vous ayez les mêmes opportunités qu'eux.
Vous allez vous battre.
Je n'ai pas le luxe de faire autrement.
Reina est arrivée en Arizona à l'âge de 13 ans. Son DACA est temporaire, ce permis de séjour est délivré aux enfants étrangers entrés illégalement aux États-Unis. Reina le renouvelle depuis 15 ans. Donald Trump a l'intention de le supprimer. Au-delà des 12 millions d'illégaux qu'il a promis d'expulser, Donald Trump veut aussi s'attaquer à certains statuts légaux, comme le H-1B, visa réservé aux meilleurs étudiants repérés par des compagnies américaines. Michael Kosicki est professeur agrégé à l'Arizona State University de Phoenix. Toutes les universités aux États-Unis s'appuient sur les étudiants étrangers.
pour les programmes d'études supérieures. Pour les filières générales, on retrouve une majorité d'élèves venant d'Arizona ou du sud-ouest des États-Unis, mais dès qu'il s'agit de diplômes supérieurs, nous avons beaucoup d'étrangers et nos cursus dépendent de ces étudiants-là.
Quel serait l'impact d'un durcissement sur les visas étudiants ?
Dans de nombreux domaines, les jeunes étrangers ont fait des études poussées dans les instituts américains, ont ensuite travaillé dans la recherche, souvent avec le soutien du gouvernement, via la Fondation nationale des sciences, le ministère de la Défense, l'Institut national de santé. Ces étudiants sont souvent restés et ils ont su attirer les grandes compagnies dans leur domaine. Regardez les noms, les visages de ceux qui dirigent aujourd'hui nos industries. Très souvent, ce sont des personnes venues d'ailleurs qui ont passé leur diplôme ici et sont restées. Vous pouvez toujours changer la politique migratoire en disant qu'il n'y aura plus d'emplois pour les Américains natifs, même si ça ne veut rien dire. Mais selon moi, tout ça est ridicule, parce que ces emplois ont toujours été là. C'est simplement que les jeunes Américains ne veulent pas se lancer dans des études supérieures. Ils préfèrent s'arrêter à Bac plus 3 et gagner un salaire à 6 chiffres, directement en sortant de l'école. Quand on voit le nombre d'étudiants étrangers qui occupent des postes stratégiques dans notre industrie, et pas simplement celle de la tech, les décourager serait un désastre pour l'économie américaine, car ils restent et ils participent au succès des États-Unis.
L'inquiétude a gagné les campus. Donald Trump a promis d'agir dès son premier jour de mandat. La prestigieuse université du MIT a récemment recommandé à ses étudiants étrangers d'éviter de quitter le territoire américain pendant ses vacances d'hiver pour éviter les mauvaises surprises à leur retour. Le discours radical, confus du futur président et de son entourage a créé la même anxiété qu'en 2016 lors de la première élection de Donald Trump. C'est ce qu'observe Albert Kahn, avocat en droit civil et conférencier à l'université d'Harvard.
C'est une période très effrayante pour beaucoup d'Américains, mais en particulier pour ceux d'entre nous qui travaillent à la protection des communautés d'immigrés. Même si je ne pense pas que Trump va réaliser ses fantasmes les plus grandioses, je ne pense pas qu'il expulsera autant de gens qu'il ne l'a promis. Je pense que ceux d'entre nous qui font ce travail à New York et dans d'autres grandes villes progressistes seront particulièrement visés. Parce que Trump aime le spectacle. Il aime les images chocs qui font les gros titres. Je crains donc que l'application des lois sur l'immigration ne soit ciblée, en particulier dans les grandes villes démocrates comme New York.
Pensez-vous qu'il ciblera tous les migrants, même les étudiants d'élite, les cerveaux qui viennent de Chine, du Moyen-Orient ou d'Europe? Parce qu'on a vu qu'il y avait un profond désaccord à l'intérieur même de son administration, avec d'un côté la ligne dure des suprémacistes blancs comme Stephen Miller ou Tom Homan, que l'on surnomme le tsar des frontières, et de l'autre Elon Musk qui a dit, lui, qu'il avait besoin de ses étudiants et qui s'oppose à ce que l'on durcisse les modalités d'obtention de ces visas là. Vous savez, je fais référence au visa H-1B.
Écoutez, Trump va être extrêmement incohérent. Nous savons que la dernière fois qu'il était au pouvoir, il a fait preuve d'un racisme flagrant en ciblant les immigrés arabes et asiatiques, mais pas ceux d'Europe occidentale. Le traitement des demandes de dossiers se faisait sur la base de la race ou de la religion. Vous savez, je pense que nous allons voir beaucoup d'étudiants incroyables qui veulent venir ici pour commencer leur carrière et qui hésiteront à cause de ce qu'a fait Trump. Je connais tellement de brillants informaticiens, de data scientists, d'experts en intelligence artificielle qui pourraient faire carrière n'importe où dans le monde et qui viennent aux États-Unis. Mais sous Trump, ils se demandent si c'est là qu'ils veulent vivre leur vie et faire leur travail. J'ai peur que l'on nuise vraiment à la compétitivité de l'Amérique et aux universités américaines en laissant entendre aux étudiants les plus brillants qu'ils ne sont pas les bienvenus ici.
Mais quel genre de difficultés ces étudiants peuvent-ils rencontrer avec cette nouvelle politique migratoire ?
J'ai bien peur que Trump ne subisse des pressions pour réduire le nombre de visas H-1B, pour réduire le statut OTP, qui permet aux étudiants de travailler après avoir terminé leurs études. Nous avons vu beaucoup de pression sur tous les types de profils avec Trump par le passé. Et vous savez, j'ai représenté des étudiants iraniens extraordinaires à qui on interdisait d'entrer dans le pays lorsqu'ils ont mis en place des mesures contre les musulmans quand Trump était au pouvoir. Des étudiants diplômés, brillants, que l'on essayait d'empêcher d'entrer aux États-Unis alors qu'ils faisaient un travail de recherche de pointe ici à New York. C'est une situation à laquelle nous pourrions être confrontés à nouveau.
OK, so let's go.
Est-ce que vous pouvez vous présenter dans un premier temps?
Hi, my name is Kevin Shi. I'm an associate.
Bonjour, je m'appelle Kevin Shi. Je suis professeur agrégé d'économie à l'Université de Californie à Riverside.
Nous sommes ici pour parler de la place et de la participation des travailleurs immigrés dans l'économie américaine. Une situation très étrange, c'est qu'on peut avoir une carte de travailleur officiel du gouvernement américain et demeurer sans papier aux États-Unis quand on est immigré. Qu'est-ce qu'on peut en conclure, selon vous, de voir que ce cas de figure est possible ici?
Yeah, that's a good question. So, and that took a class of.
Oui, c'est une bonne question. Et ça concerne souvent des personnes entrées aux États-Unis sans autorisation lorsqu'elles étaient jeunes ou enfants. Elles peuvent être déportées, mais bénéficient d'une autorisation de travail. Ça en dit long sur la façon dont sont élaborées les politiques d'immigration, ou plutôt à l'absence de volonté politique sur la gestion des flux migratoires. Vous savez, je pense que la dernière réforme globale de l'immigration aux États-Unis remonte à 1990. Donc il y a bien longtemps. C'est là qu'on a créé les différentes catégories de visas en fonction du profil des populations. Aujourd'hui, ce système ne fonctionne pas très bien. Et donc, tant que nous n'aurons pas une nouvelle réforme globale de l'immigration, je pense que nous continuerons à rester dans ces situations où les gens sont dans des statuts limités et précaires.
Est-ce que aussi la raison, c'est parce que cette population coûte moins cher?
C'est vrai que d'après les données que nous avons sur les nouveaux immigrés, ceux de la première génération, ils ont tendance à avoir des salaires plus bas par rapport aux travailleurs nés ici. Ce qui est intéressant, c'est de voir qu'avec le temps, leur profil salarial se corrige un peu, mais aux deuxième, troisième génération et au-delà, l'écart des salaires disparaît entièrement. Dans certains cas, la troisième génération dépasse même les salaires versés aux Américains natifs. Donc oui, dans de nombreux cas, même avec des personnes équivalentes en termes d'âge, d'éducation et d'expérience professionnelle, les nouveaux immigrés sont pénalisés par rapport aux travailleurs autochtones parce qu'ils viennent d'arriver dans le pays. C'est dû à certaines barrières, culturelles ou autres, au fait qu'ils ne comprennent pas encore tout à fait le fonctionnement du marché du travail aux États-Unis ou la façon dont on négocie les offres salariales. C'est ce que l'on constate aussi.
Est-ce que cette politique de déportation de masse que prévoit Donald Trump peut être risquée pour l'économie américaine?
Le simple fait d'expulser une dizaine de millions de personnes supprimera mécaniquement un grand nombre d'emplois. C'est un fait. Et les États-Unis ne seront pas en mesure de les remplacer du jour au lendemain.
Thank you, Kevin.
Thank you very much. Great, it was a pleasure talking to you.
I said a dick, the mistress. Draco's for my G, they 30 clips I want for Christmas. Welcome to this life of mine. They gang banging. Get the talking, we just pull up when you hanging. No cap.
Immigration, la méthode Trump, c'était un reportage d'Olivier Poujade avec Annie Bro à la réalisation.
Grand reportage, Aurélie Kiefer.
Olivier Richomme, professeur de civilisation américaine, est avec nous depuis Lyon pour prolonger ce reportage. On peut peut-être rappeler dans un premier temps ce que Donald Trump a déjà fait concrètement en matière d'immigration. C'était déjà en 2016 un thème de campagne majeur et sous son premier mandat, un fait peu glorieux, près de 4000 enfants de migrants illégaux se sont retrouvés séparés de leurs parents et placés en détention. Qu'est-ce que vous retenez, Olivier Richomme, de la politique migratoire de Donald Trump entre 2017 et 2021 ?
Eh bien, on peut donc se souvenir des images que vous avez vues des familles qui étaient séparées. C'est l'exemple que vous preniez. C'est ce qui marque, parce que parfois les images valent mieux que de grands discours. C'est ce qui est resté. C'est ce qui est, d'un point de vue de relations de communication, a été le plus délétère pour lui. Mais très tôt, il a commencé par des déclarations sur les musulmans qui sont suivies par une interdiction d'entrée aux États-Unis qu'il a essayé de mettre en place, donc des musulmans avec, on se souvient, des difficultés à l'aéroport. C'est presque risible maintenant quand j'y pense. Cette tentative, à l'époque, il savait pas trop ce qu'il faisait à l'administration républicaine et donc a été retoquée quand même trois fois par les tribunaux. Et puis au final, on a quand même eu une interdiction, un ciblage vraiment très précis des musulmans, comme il l'avait dit lors de sa campagne. Vous avez mentionné la séparation des familles, qui était un instrument pour que les personnes décident d'elles-mêmes de retourner dans leur pays, puisqu'elles se voyaient confrontées à un dilemme. C'est soit je suis séparé de mes enfants, soit je retourne dans mon pays. Ensuite, vers la fin, on a eu la Covid qui a permis, donc on a recherché tout ce que les lois américaines nous permettaient d'utiliser. Et donc, on a retrouvé une loi des années 40 sur une question sanitaire. Et donc, on a utilisé la Covid pour fermer la frontière, pour dire que les musulmans que les immigrés qui arrivaient pouvaient véhiculer des virus, en l'occurrence la Covid. Et puis, sur le droit d'asile, on a quelque chose d'un peu compliqué dont l'Europe s'est un peu inspirée, hélas. On a décidé que, comme les demandeurs d'asile venaient sur le sol américain et que l'État fédéral n'a pas donné les moyens de détention ni de nombre de juges pour traiter les dossiers, et ben on les laissait repartir dans la nature pendant que les dossiers étaient en instruction, et puis ils ne revenaient pas très souvent. Et donc la solution, c'était de demander aux personnes de rester à l'extérieur, et donc on les a laissés au Mexique. Et on a décidé au Mexique de gérer cet afflux de personnes pendant que leur dossier était en instruction, ce qui a soulevé énormément de difficultés, déjà de relations conflictuelles avec le Mexique. Puis le Mexique n'était pas du tout fait pour absorber ce flot migratoire. Et puis on a laissé une situation s'envenimer. On a une situation, on va dire, humanitaire de l'autre côté de la frontière qui est quand même très problématique. Donc voilà les quatre points peut-être que je retiendrai du premier mandat de Donald Trump.
Il y avait aussi ce fameux mur à la frontière mexicaine, soi-disant financé par le Mexique.
Oui, alors bien sûr, il n'a jamais été financé par le Mexique, ça c'était ce qu'il avait promis. Mais en fait, le mur a été construit après le 11 septembre sous l'administration Bush et Donald Trump l'a beaucoup instrumentalisé, mais il n'a pas rajouté beaucoup de kilomètres à ce mur. On l'a un peu militarisé, par contre, beaucoup plus militarisé, mais le mur, il était déjà là. Et puis, il faut rappeler aussi aux éditeurs qu'on a quand même un mur naturel, on va dire. On n'a pas de mer Méditerranée, mais on a un désert qui est quand même très dangereux à traverser naturellement.
Alors, vous avez évoqué le droit d'asile. Effectivement, parmi les personnes qui franchissent illégalement la frontière, certaines sont éligibles au droit d'asile. Mais l'examen de ces demandes d'asile est très lent aux États-Unis. Il y a beaucoup de dossiers en souffrance. Les dysfonctionnements sont importants.
Oui, les dysfonctionnements sont très importants. Ce qui est intéressant de voir, c'est que les personnes traversent la frontière et cherchent un agent pour se faire arrêter, pour pouvoir demander le droit d'asile, puisque vous avez une certaine protection quand vous avez ce droit d'asile. Alors c'est un droit très important qui a été très malmené lors du premier mandat Trump. Stephen Miller, qui a été mentionné dans un de ses conseillers, qui a été mentionné dans le reportage juste avant, en a fait un peu l'exemple de ce qu'il voulait faire. Ils ont essayé de réduire le droit d'asile. Le droit d'asile, c'est quand même lorsqu'on est les États-Unis et qu'on se dit le pays de la liberté. Il faut savoir que ça remonte, par exemple, enfin, ça remue beaucoup de choses. La Seconde Guerre mondiale, les Juifs qu'on a refusés. Enfin, il y a des tas d'endroits dans le monde où les populations sont maltraitées. Et l'éthique des États-Unis, c'est quand même de recevoir sa part. Donc le droit d'asile, c'est quelque chose qui est symboliquement très important et qui, quand c'est bien fait, peut être très utile. On a vu des situations où les gens sont très accompagnés, on a des populations qui sont très bien intégrées. Par contre, ça coûte très cher et l'État fédéral, puisque c'est une question fédérale, n'en déplaise à ce qui a été dit dans le reportage, c'est pas une question c'est pas les États, c'est vraiment l'État fédéral qui gère l'immigration, et c'est là qu'on attend que l'État fédéral fasse son travail. Le droit d'asile doit être instruit, et pour ça il faut des juges. Les personnes qui viennent sont de plus en plus nombreuses à cause des situations qu'on a vues, par exemple en Amérique latine, au Venezuela par exemple, ou même aux quatre coins du monde. Les gens viennent parfois de plus en plus loin, et donc les États-Unis ne peuvent pas accueillir tous les réfugiés de la planète, mais ils doivent en prendre un certain pourcentage. Et surtout, ils doivent se donner les moyens de traiter ce droit d'asile. Et comme je le disais avant, souvent, jusque-là, les gens demandaient à avoir le droit d'asile pour ensuite, en attendant que leur dossier soit instruit, disparaître dans la nature et puis ne jamais se présenter devant le juge. Parce qu'en fait, une fois que vous êtes aux États-Unis, il y a des tas de moyens pour travailler et vivre une vie à peu près normale, comme on l'a vu dans le reportage. On s'est retrouvé, donc votre reportage disait qu'il y a à peu près 11 millions de personnes qui sont sur le territoire en situation illégale. C'est un nombre important qui explique bien que c'est systémique et on n'arrive pas à ce genre de chiffres par hasard.
Alors justement, concernant cette immigration illégale, pour ce second mandat, Donald Trump a fait des annonces chocs, hein, il prétend les expulser, tous ces sans-papiers. Est-ce qu'il faut le prendre au sérieux ?
Alors, il faut le prendre au sérieux dans le sens où il a fait sa campagne là-dessus. Les démocrates, les républicains et même les indépendants au Congrès étaient tombés d'accord en février dernier pour passer une loi vraiment assez draconienne sur l'immigration qui aurait répondu à un certain nombre des dysfonctionnements du système migratoire américain, et que Donald Trump a appelé les élus républicains et leur dire de surtout de ne pas passer cette loi, qu'il en avait absolument besoin pour faire campagne. Et donc, c'est là-dessus qu'il a fait campagne. Il est obligé, maintenant qu'il a dit qu'il allait pas déporter, parce que ça a une connotation en français.
C'est une traduction, voilà.
Oui, expulsion, expulsion reconduite à la frontière, qu'il allait le faire. Et donc, il est obligé de le faire, ne serait-ce que pour une question de communication. Maintenant, d'un point de vue logistique, c'est juste impossible. Et donc, on se demande bien ce qui va pouvoir se passer, vu qu'on ne voit pas comment on peut renvoyer autant de personnes. Ce sont des personnes souvent qui se cachent. Le service de l'immigration qui a été mentionné dans votre reportage, ICE, n'a pas les moyens de le faire tout seul. Et donc, est-ce qu'il utiliserait l'armée, la garde nationale? Enfin, tout est possible et imaginable. Par contre, ce qui risque de se passer, c'est qu'il va être confronté à une dure réalité, la réalité économique. Déjà, ça coûte très cher d'essayer de faire la chasse à l'homme. Ça coûte très cher pour l'économie parce que ces gens sont là, ils sont pas là simplement. Je sais que les Américains prétendent qu'ils sont là pour bénéficier des services sociaux, mais il y en a quand même pas beaucoup aux États-Unis. Ces gens travaillent et donc font tourner l'économie, et donc il y a un coût économique très important.
Oui, parce que sur ces plus de 11 millions de sans-papiers, il y a plus de 8 millions de travailleurs.
Ah oui, tous travaillent dans les industries que vous avez mentionnées, avant. Donc là, lors de l'élection présidentielle, on parlait de l'incapacité des États-Unis à, puisqu'on a l'immobilier qui est très haut, l'incapacité des États-Unis à construire des maisons. C'est beaucoup d'immigrés illégaux qui travaillent dans la construction. Et pareil pour le tourisme. Voilà, quand on va aux États-Unis, on sait bien. Enfin, les auditeurs qui nous écoutent, ils vont à Las Vegas, ils savent bien que dans les restaurants ou dans les hôtels, les gens qui font le ménage ou qui font la plonge ce sont des immigrés. Donc ils font tourner l'économie, et donc d'un point de vue économique, c'est juste pas possible. Et d'un point de vue logistique, on voit pas comment il peut trouver une population aussi importante qui se cache. Par contre, il peut essayer. Et là, s'il essaye, et donc il est bien parti pour, Obama avait 400 000 reconduites à la frontière. On l'avait surnommé the deporter in chief. Trump, c'est à peu près 300 000, 350 000 reconduites à la frontière qu'il a, il a réussi à en moyenne. Quand bien même il doublerait ou qu'il triplerait ce qu'il a fait lors de son premier mandat, on est loin du compte. Donc ce n'est pas possible. Il risque, comme on l'imagine, d'aller trop loin et on voit bien ce genre de tentative. Moi j'ai un petit peu peur qu'on ait un drame ou qu'on ait, je sais pas moi, un gamin de 7 ans qui soit tué par service d'immigration ou je sais pas quoi, et que du coup ça se retourne contre lui, un peu comme on avait vu avec la séparation des familles qui du coup a fait la une des journaux et qui a bien montré, on va dire, le côté inhumain de ces politiques.
Olivier Poujade.
Oui, au final, j'ai une question à vous poser, mais au final, est-ce que son action à Donald Trump n'aura pas uniquement un sens politique spectaculaire pour donner satisfaction aux électeurs qui ont voté pour lui, et finalement il ne pourra pas aller plus loin, ou en tout cas beaucoup plus loin que Barack Obama en termes d'expulsion, car il sait très bien que s'il va plus loin, d'après ce que je comprends et ce que vous avez dit et ce que j'ai entendu sur le terrain, il se tire une balle dans le pied quelque part.
Voilà, il ne pourra pas. Par contre, il va communiquer, il va dire que ça y est, c'est fait, qu'il a réglé le problème. Le problème, bien sûr, de Donald Trump, c'est qu'en fait, l'immigration, avec les différents volets, et on n'a pas encore parlé de tous les volets, et c'est extrêmement complexe. Personne n'a de solution ni de baguette magique, mais gouverner, c'est pas son truc. Il n'est pas intéressé par gouverner, par trouver des solutions.
Alors, justement, je vous relance là-dessus. À l'intérieur de son propre camp, est-ce qu'on a déjà une idée de savoir vers qui il va se tourner pour être le conseiller au mieux sur la gestion de cette politique migratoire, vers les suprémacistes blancs? On parlait de Tom Homan, le tsar des frontières, de Stephen Miller, qui est jamais très loin de lui non plus, ou alors plutôt la version tri-sélectif proposée par Elon Musk?
Si on regarde l'histoire de l'immigration aux États-Unis, parce qu'on a cette tension qui est là depuis longtemps entre les xénophobes et les suprémacistes blancs, Miller et les autres ne pourront pas gagner, je pense, contre l'appel du business. Donald Trump est avant tout un homme d'affaires. Une fois que le Parti républicain, c'est quand même le parti de la Chambre du commerce, et donc une fois que les entrepreneurs et ses collègues de la tech, par exemple, qui sont bien placés pour savoir à quel point la main-d'œuvre étrangère est importante et bien formée pour leur industrie. Je pense que l'économique l'emportera et qu'on fera de la communication en disant qu'on a résolu le problème de l'immigration. Mais en fait, il n'en sera rien.
Mais quand dans ses discours, Donald Trump criminalise les immigrés, sans prendre d'ailleurs la peine de s'appuyer sur des arguments sérieux, ce sont des messages à l'attention de ses soutiens xénophobes?
Oui, mais pas seulement, comme l'a rappelé le reportage. Il y a beaucoup de personnes qui sont contre l'immigration en général, pas simplement des xénophobes. C'est lorsque la situation économique va mal, et pourtant elle va pas si mal aux États-Unis, mais la perception en tous les cas en est, c'est toujours très facile de trouver des boucs émissaires. Et donc au lieu de prendre l'immigration à bras-le-corps, on dit il suffit de s'en prendre à cette minorité un peu faible, et les problèmes seront résolus. Mais ce n'est pas que des xénophobes. On a des tas de latinos qui ont voulu refermer la porte derrière eux. Moi, je suis rentré de façon illégale, mais on peut pas recevoir toute la misère du monde. Il y a des afro-américains qui veulent aussi qu'on réduise l'immigration. C'est un thème, l'immigration, et on le voit bien en Europe et ailleurs dans le monde, qui est quand même qui couvre quand même un grand spectre de la population.
D'ailleurs, début janvier, la Chambre des représentants a adopté un projet de loi qui s'attaque aux migrants en situation irrégulière accusés de délits. Elle a d'une certaine manière commencé à mettre en œuvre le programme de Donald Trump. Ce texte a été soutenu par des démocrates.
Oui, ça c'est assez inquiétant. Je pense que les démocrates tirent les mauvaises conclusions de cette élection. Je pense qu'ils surréagissent et je pense qu'ils s'en mordront les doigts sur le long terme, parce que ça a passé à la Chambre, visiblement ça va passer au Sénat, et cette loi qui porte le nom d'une dame qui a été assassinée par un migrant en situation illégale va très loin et autorise notamment les États fédérés à attenter des procès envers l'État fédéral lorsque il ne bouge pas assez vite sur les questions migratoires et notamment sur la question des visas. Et donc sur le long terme, si cette loi passe, je pense que les démocrates regretteront d'avoir aidé les républicains à la passer, parce qu'il y a un côté très 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 pervers. Et je pense que ça traduit le fait que les démocrates tirent les mauvaises conclusions. On dirait qu'on est en 84 lorsque Reagan, je sais pas si les éditeurs se souviennent, mais il a gagné 49 États et c'était un raz-de-marée. Là, on est pas du tout dans un raz-de-marée. On est à 1,5 point d'écart entre Trump et Kamala Harris. Les démocrates ont de grandes chances de regagner la Chambre dans 2 ans. Ce n'est pas un réalignement politique et les positions de Donald Trump ne sont pas du tout majoritaires.
Mais on entendait dans le reportage les divisions des démocrates à New York, ville qui pourrait ne plus être sanctuaire. Est-ce que d'autres, donc ville qui applique une politique de protection des immigrés en situation irrégulière ou au moins neutre à l'égard de leur statut, est-ce que d'autres villes sanctuaires subsistent malgré tout ?
Oui, bien sûr. C'est là que est l'avantage du fédéralisme, et les démocrates retrouvent le goût du fédéralisme maintenant que Donald Trump est revenu au pouvoir. Les États fédérés sont souverains, ils ont le droit de passer un certain nombre de lois. Je voulais juste rappeler que l'exemple qui est pris, c'est un peu un exemple à part, parce que Adams est quand même dans des grosses difficultés judiciaires, et je pense qu'il fait des appels du pied aux républicains dans l'espoir qu'on l'aide à sauver sa carrière politique. Donc je pense que c'est vraiment juste un peu le côté... la situation personnelle, on va dire, d'Eric Adams. Je tiens à préciser quand même, dans le reportage, on a dit que c'est la police. Et lorsqu'on a un état sanctuaire, voilà, les policiers ne sont pas obligés de faire le travail des services d'immigration. Je tiens à rappeler que c'est pas que les policiers qu'on protège quand on fait ça, c'est qu'on protège aussi le personnel hospitalier et on protège aussi les enseignants. Parce qu'on demandait aux enseignants de dire, lorsqu'il y avait des enfants qui étaient en situation irrégulière et lorsque les gens venaient à l'hôpital, on les soignait, mais aussi on demandait aux gens. Et donc c'est tout l'appareil, on va dire, tous les fonctionnaires ou tous les employés publics qu'on protège lorsque on passe une loi, les droits qu'on a dit loi sanctuaire. Et donc par exemple la Californie, enfin il y a bien d'autres États, il y a des États, mais il y a même des villes où on essaye de protéger le personnel face aux injonctions du gouvernement de l'État fédéral qui voudrait que le personnel civil fasse le travail des services de l'immigration.
Par ailleurs, il faut quand même souligner qu'une majorité d'Américains sont favorables à l'immigration qualifiée. Donc autant il peut y avoir des inquiétudes par rapport aux migrants illégaux, autant les réticences de certains soutiens de Donald Trump ne sont pas forcément partagées.
C'est un pays qui a une longue histoire d'immigration. Alors là, on atteint des records, on va dire, historiques. On est à peu près à 15% de la population qui est d'origine étrangère. Donc ça crée des tensions. Mais les Américains le savent bien. Le monde des affaires le sait bien. On a une immigration choisie, comme on dit, avec certains domaines qui ont besoin de gens très qualifiés. Les États-Unis sont leaders dans certains domaines, par exemple les domaines techniques. On sait que les Américains délaisse un peu les sciences, et donc on importe en particulier des scientifiques de l'étranger, et donc ça c'est bon pour l'évolution économique du pays, pour la recherche et pour que les États-Unis restent leaders dans un certain nombre de domaines.
Merci Olivier Richaume. Olivier Pouget signe le grand reportage de cette semaine, Immigration, la méthode Trump. Réalisation Annie Bro, à la technique Chantal Nouvelot à Lyon et Anthony Thomasson à Paris. Documentation, Patricia Miura et Véronique Lefaller. Je remercie également Caroline Beneteau au web. Pour réécouter ou partager cette émission de la rédaction, rendez-vous sur l'appli Radio France ou sur franceculture.fr.